put a spell on you.
Bienvenue sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis, animée par la compagnie Les Montures du Temps. Aujourd'hui, dans le studio, nous accueillons deux comédiennes d'origine mexicaine même, on peut dire, Paola Cordova et Odile Loria, qui sont donc mes deux invitées, ou devrais-je dire une invitée d'invité, puisque j'ai donné aujourd'hui une carte blanche à Odile que je connais très bien puisque nous avons travaillé ensemble à une mise en espace lecture d'un texte de Edgar Chas qui s'appelle Le ciel dans la peau et pour lequel nous nous sommes rencontrés au mois de mai dernier lors du festival Hecho en México. Et donc Odile a convié son amie Paola Cordova pour une carte blanche où elle nous parle de leurs deux coups de cœur sur des auteurs femmes, mais je pense qu'elles vont nous en dire un peu plus d'elles-mêmes. Bonjour Odile.
Bonjour Anaïs.
Alors, peut-être qu'on peut faire un petit tour de table et puis vous présenter concrètement, dire un peu votre parcours de comédienne en France, au Mexique et ailleurs.
Bon, en effet, je suis venue en France pour la première fois grâce à un échange franco-mexicain dans lequel j'ai connu Paola Cordova. Donc nous étions en train de finir notre formation théâtrale au Mexique en 98. Elle faisait partie du centre universitaire du théâtre et moi de l'école nationale d'art théâtral. Et donc là, j'aimerais bien que Paola rebondisse et qu'on raconte ensemble oui. Notre rencontre.
Bonjour Paola.
Bonjour Anaïs, bonjour Odile.
Bonjour.
Et donc cet échange théâtral, c'est un produit théâtral en fait dirigé par la metteur en scène française Catherine Marnas, qui venait donc au Mexique travailler avec six comédiens qui sortaient du conservatoire de Paris. Pour travailler avec des élèves qui sortaient des conservatoires au Mexique. Et cet échange a donné lieu à un spectacle qui s'appelait Alors Entonces, qui était un patchwork, un mélange de textes, pas forcément des pièces de théâtre, des textes en théâtre, donc des poèmes, des récits mexicains et français. Donc on a joué. En fait, c'était une expérience humaine incroyable parce que les comédiens français ne parlaient pas un mot d'espagnol. Et nous, les Mexicains, on ne parlait pas du tout français.
D'accord.
Donc, les moyens de communication, c'était, ça passait par ailleurs, quoi. Ça passait par le corps, par les images, par les gestes. Et c'était génial.
Et vous avez donc joué ce spectacle au Mexique et en France ?
Oui. Et à Paris, oui. En 98 au Mexique, 99 à Paris, et depuis une longue aventure d'immigration.
Oui, parce que vous êtes tombée un peu amoureuse de la France au final.
Ben, c'était un coup de cœur d'abord pour Paris. Non, tout d'abord pour la langue française en ce qui me concerne. Ensuite pour Paris, ensuite pour un Français.
Et Odile, toi, tu as poursuivi en France
Là, moi, je ne suis pas venue tout de suite m'installer. J'ai commencé à travailler avec des Français entre la France et le Mexique. Donc, on était vraiment dans des équipes mélangées avec Bruno Weglin, avec Catherine Marnas. Et c'est qu'en 2003 que j'ai demandé une bourse pour l'école régionale d'acteurs à Cannes. Et puis, je venais juste pour 6 mois, et me voici. Me voici, encore.
Et donc, aujourd'hui, vous êtes à Lyon, bon, non seulement parce que vous êtes mes invités, mais parce que vous jouez actuellement au TNP.
Oui, on a une toute petite participation dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig sur un texte de Arne Ligre qui s'appelle « Je disparais ». Et en ce moment, ça se joue au Théâtre National Populaire.
Mais pas seulement, il y a aussi la raison pour laquelle tu es venue nous parler de ton coup de cœur, puisque tu travailles aussi avec un metteur en scène et dramaturge lyonnais. Mais je m'arrête tout de suite car je me rends compte qu'on va en parler plus en fin d'émission de la raison pour laquelle tu es aussi sur Lyon maintenant. Plus généralement, donc vous êtes toutes les deux des comédiennes qui
travaillons à Paris actuellement. Enfin, depuis moi je suis arrivée il y a 13 ans à Paris, et donc un peu avant Odile, et j'ai fait une année au Conservatoire National Supérieur de Paris en tant que stagiaire étrangère, et ensuite j'ai commencé à travailler avec une compagnie montreuilloise, la compagnie Ekphrasis, mm-hmm. Qui produit surtout des textes contemporains. Et donc au sein de cette compagnie, j'ai mis en scène un texte de Duras, mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'on en avait parlé tout à l'heure.
Oui, puisque donc au Théâtre de la Gamelle, dans le cadre du cycle de lecture sur les auteurs femmes, on a lu à plusieurs reprises des textes de Marguerite Duras.
Oui.
Donc on se retrouve aussi d'une certaine manière par cet amour-là de cette dramaturge.
Oui, et moi ce que je trouve extraordinaire chez Duras, c'est le travail, enfin effectivement le travail de la langue. Donc ce qui m'a attirée, c'était de présenter un texte, un récit court, L'homme assis dans le couloir, et puis
de temps en temps, depuis un moment plus fréquemment, on touche de la dramaturgie des Mexicains contemporains.
Ouais, d'auteurs contemporains mexicains.
Donc
on a parlé d'Edgar Chias tout à l'heure avec Le ciel dans la peau, mais
il y a longtemps qu'on a commencé à travailler, oui, sur ces dramaturgies-là. Donc, par exemple, Paola va jouer en mai les textes d'un auteur vivant qui s'appelle Luis Enrique
Ortiz Monasterio. Gutiérrez Ortiz Monasterio.
Tout ça.
Les gommes.
Oui, c'est les gommes. Hein, on en a parlé quand on parlait du collectif L'Organisation, qui montait un texte Bête, chienne et autres créatures, justement, de cet auteur mexicain.
Et ben voilà, nous, on a monté il y a quelques années, il y a 5 ans, ce texte-là, et on va le reprendre.
Sur Paris ?
Sur Paris, au Colombier, à Bagnolet.
D'accord.
En mai.
Et Odile, est-ce que l'aventure, je me souviens t'avoir vu jouer dans un spectacle, c'était au Colombier il me semble aussi,
oui.
Un spectacle de Fabrice Melchiot, qui était mis en scène par
Manuel Ulloa.
Manuel Ulloa.
Donc c'était grâce à l'initiative de Manuel Ulloa, il a voyagé, il a fait un long voyage, surtout dans la frontière mexicaine, entre les États-Unis et le Mexique. Et c'était Fabrice Melchior et Manuel Ulloa qui ont fait ce voyage. Et suite à ce voyage, Fabrice a écrit un poème dramatique qu'après on a joué en 2010 et en 2011. 2010 au Mexique et 2011 à Bagnolet. Et c'était vraiment une équipe composée des Français et des Mexicains qui on se connaît depuis cette aventure. Donc Paola, il y avait Giovanni Ortega, Manuel Ulloa, Chloé Région, qui est française. Et qu'on se connaît depuis maintenant 13-14 ans, à peu près.
Alors, attends, Odile, on ne t'entend plus. Il y a un petit problème. Est-ce que tu peux dire la fin de ta phrase dans l'autre micro qui se situe à ta gauche ou à ta droite?
Donc bon, on a joué avec une équipe vraiment mélangée qui on se connaît depuis 10 ans, voilà.
Ok, avant de parler plus concrètement de ton coup de cœur, on va écouter un petit extrait d'une petite musique que tu as choisie, Odile, extrait d'un...
Oui, c'est les groupes s'appellent Los Parientes de Playa Vicente. C'est le genre, c'est la musique, elle sonne. Que c'est une musique très puissante, vraiment d'origine paysan, et qui se situe, ce groupe-là, Los Parientes de Playa Vicente, dans les côtes de Veracruz, dans les pays du Mexique.
Donc du golfe du Mexique.
Du golfe du Mexique. Et donc la chanson qu'on va entendre s'appelle Las Olas del Mar. En el estudio todo ha quedado igual, querido Diego. Tus pinceles se yerguen en el vaso muy limpios, como a ti te gusta. Atesoro hasta el más mínimo papel en que has trazado una línea.
15 novembre 1921.
Como si estuvieras presente.
Aujourd'hui, plus que jamais, je me languis de toi et je te désire. Ton grand corps remplissait tout le studio. Je n'ai pas voulu décrocher ta veste du travail.
7 novembre de 1921.
Elle garde encore la forme de tes bras.
Celle d'un frío en los ojos, intento de congelarnos.
Je n'ai pas pu la plier ni la dépoussiérer.
Se inicia un invierno
purísimo. Il
me recuerda
a
otro que
tú. Une espèce de filasse entre les mains.
Quisiéramos olvidar.
Alors,
hasta tú abandonabas la tela para ir en busca de combustible.
On vient d'entendre un extrait du roman épistolaire de Elena Poniatowska. C'est le coup de cœur dont tu veux nous parler aujourd'hui, Odile. Qui est Elena Poniatowska ?
Donc, Elena Poniatowska est une écrivaine d'origine polonaise, née à Paris en 1932. Donc, elle est d'origine très aristocrate. Et à l'âge très enfant, elle part vivre au Mexique. Donc, elle est née à Paris, d'origine polonaise. Elle part au Mexique. Et là, elle devient journaliste. Donc, elle a écrit pour de journaux très importants, comme l'Excelsior. Et ce qui est très passionnant dans la vie d'Elena Poniatowska, c'est qu'elle a tout pour devenir une aristocrate, et c'est aussi au Mexique. Et tout de suite, elle se rend compte des différences et des inégalités sociales. Et elle devient quelqu'un de très consciente, très engagée politiquement.
Oui, tu disais tout à l'heure, hors antenne, qu'elle avait notamment écrit un texte sur les événements qui ont lieu au Mexique en mai 68, oui. Notamment un massacre de mouvements d'étudiants.
Donc, en 1968, il y a eu un mouvement étudiant. Comme il y a eu des mouvements étudiants partout dans le monde, ici en France aussi. Et il y a eu une grande manifestation pour soutenir ce mouvement avec des militants dans la Plaza de Tlatelolco. Et à ce moment-là, le 2 octobre, le gouvernement envoie des militaires et des policiers en civil pour encercler les militants. Avec des hélicoptères aussi, et c'est une des plus grandes massacres du dernier siècle au Mexique, parce que maintenant il y a eu d'autres. Et donc Elena Poniatowska cherche des survivants et des témoins de ce massacre, parce qu'il y a eu des massacres d'étudiants et des civils.
Et il y a eu combien de morts ?
Plus de 500. Il y a eu des milliers de disparus et plus de 500 corps trouvés. Mais il y a des corps qu'on n'a jamais trouvés parce qu'il y a des gens qui sont encore disparus. Et donc Elena Poniatowska cherche des gens qui ont vécu ce massacre, qui ont été en prison et aussi des gens qui témoignent. Et elle fait un recueil de témoignages qui s'appelle « La noche de Tlatelolco ».
D'accord. Est-ce que c'est par ce texte-là que tu as... entendu parler pour la première fois de cet écrivain ou...
C'est une des premières fois. Et c'est en 99 qu'on a fait une mise en espace aussi de ce texte-là, mm-hmm. pour rendre hommage et pour faire un travail de mémoire, parce que pour nous aussi, le théâtre, c'est un espace pour travailler la mémoire collective. Mm-hmm. Et à ce moment-là, c'est la première fois qu'on a travaillé un texte d'Elena Poniatowska.
D'accord.
Donc, au début, son texte n'a pas pu être publié, évidemment, il a été censuré. Et 12 ans plus tard, il a pu le publier.
Donc là, aujourd'hui, le coup de cœur pour lequel tu es venu nous parler, donc c'est un texte, un roman épistolaire écrit par cette écrivaine donc, d'origine polonaise et qui va donc rédiger une correspondance, ou du moins des lettres que la première femme de Diego Rivera lui aurait adressées. Donc cette première femme s'appelle Angelina Belov. Qui était Angelina Belov ?
Donc Angelina Belov naît à Saint-Pétersbourg et elle vient pour continuer sa formation en tant que peintre, un peu avant la trentaine. Et là, elle fait la rencontre de Diego Rivera, qui était ici à Paris, pour aussi brasser tout le mouvement des peintres de l'époque. Mmh. Et donc, ils tombent amoureux, et ils vivent 10 ans ensemble. Ils se sont mariés, et ils ont eu un enfant. Mais ils vivaient dans des... Diego Rivera n'était pas les grands peintres reconnus que maintenant on connaît. C'était le début de sa carrière et donc il vivait dans des privations très grandes, dans un moment où à Paris il y avait une grande pauvreté aussi pour les artistes, mm-hmm. et donc ils ont eu un enfant qui tombe malade de méningite et qui meurt par les carences de ces couples qui ne peuvent plus assumer ni la santé, ni la vie de son enfant.
Mmh. Sur ce, Diego Rivera part et laisse Angelina Beloff seule à Paris.
Voilà. Donc sur ce, le courageux Diego Rivera, non, je suis ironique, part et il dit « Je reviens tout de suite, mi amor. » Et Diego Rivera, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver les bras ouverts d'un pays en pleine expansion après la Révolution. Donc
son art d'avant-garde est complètement célébré.
Et il est reçu vraiment avec des portes ouvertes pour commencer à entreprendre son art dans les murs, pour faire des fresques, pour mettre en honneur la révolution du pays. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il ne reviendra plus jamais chercher sa femme. Donc, qu'est-ce qu'elle imagine, Elena Poniatowska? Elle imagine des lettres qu'Angelina Beloff a pu l'écrire à Diego Rivera, parce que qu'est-ce qu'on a de ce côté, une femme peintre qui en tout cas veut devenir une grande peintre aussi, mais qui est en train de traverser un deuil amoureux et un deuil de mère, totalement seule et en décadence économique très forte. Donc c'est pas la joie, c'est pas le grand bleu, voilà. Donc Elena Poniatowska imagine 12 lettres qu'Angelina Beloff a pu l'écrire à Diego Rivera. Et ce sont des lettres qui n'ont pas de réponse. Ce sont les seules réponses que Diego Rivera va envoyer dans cette histoire. Ce sont des virements d'argent. Il envoie de l'argent en réponse aux lettres qu'elle envoie. De l'argent pour Angelina Beloff et pour son amante voisine, Marievna, et l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Voilà.
Tu vas nous lire un extrait de ce roman épistolaire, mais avant, on va écouter un petit extrait de Danzón.
C'est un grand compositeur mexicain qui s'appelle Arturo Márquez. Et c'est une œuvre qui s'inspire de Danzón. Et il l'appelle Danzón. Et c'est merveilleux.
On écoute ça tout de suite. Thank you.
17 décembre 1921. Diego. Je n'étais pas écrit durant plus de 15 jours, car j'ai été malade. À la suite de ma visite au Louvre, au milieu de la plus grande exaltation, j'ai commencé à attacher une toile, agité et avec mal à la tête. Au bout d'un moment, délaissant la toile, je pris un crayon et me suis mise à faire esquisse sur esquisse. Puis, ayant épuisé tout le papier, j'ai repris les feuilles pour dessiner sur le revers. Rien ne me contenta. Je me suis levée à 4h du matin, ainsi que tu le faisais, pour essayer d'organiser la composition, et j'ai continué toute la journée. Tu ne peux pas imaginer combien j'ai lutté. Je ne me suis même pas interrompue pour cuisiner. Et je me suis souvenue de nos bouillons d'os avec quelques légumes. Tous les appelaient pot-au-feu. J'ai souriais en moi-même à l'idée d'une Angelina qui pourrait prendre soin de moi et me prier de faire une toute petite pause pour manger un morceau. Et nerveuse, je continuais jusqu'au soir, reprenant encore et encore. J'ai pensé que ton esprit avait pris possession de moi, que c'était toi et non moi qui se trouvait à l'intérieur de moi, que ce désir fiévreux de peindre provenait de toi, et je ne voulus pas perdre une seconde de cet ensorcellement. J'allais jusqu'à grossir, Diego. Je débordais, je ne rentrais plus dans le studio. J'étais aussi grande que toi, je me battais contre les esprits. Tu m'avais dit quelquefois que tu fréquentais les diables. Et je m'en souvins à ce moment-là, parce que ma cage thoracique prenait une telle ampleur que mes seins commencèrent à enfler, ainsi que mes joues et mon double menton. J'étais comme une chambre à air. Je cherchais un miroir, et en effet, mon visage était là, large et bouffi, palpitant, comme si on l'avait attisé de l'intérieur avec un soufflet. Comme mes tempes battaient, et mes yeux, comme ils étaient rouges. Ce n'est qu'alors que j'ai touché mon front et que je m'ai aperçu que j'avais de la fièvre. Une sacrée fièvre. Il fallait en profiter, vivre cette heure pleinement. Je t'ai senti m'envelopper. C'était tes mains, Diego, et non les miennes, qui se mouvaient. Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai dû perdre connaissance parce que je me suis réveillée au matin, allongée près du chevalet et transie de froid. La fenêtre était ouverte. Sans doute l'avais-je ouverte durant la nuit comme tu le faisais, lorsque tu sentais que ton corps devenait gigantesque jusqu'à recouvrir les murs, les recoins, qu'il occupait une étendue plus grande sur la terre, qu'il allait au-delà de ses propres limites, qu'il les brisait. Évidemment, j'ai attrapé une angine de poitrine. Et si je n'avais pas reçu les soins de la concierge, ce bouillon de poule quotidien, alors qu'il est, tu serais en train de dire adieu à ta Chiella. plus grande joie serait de voir parmi les rares lettres que je reçois une lettre avec un timbre du Mexique. Mais ça serait là un miracle. Et tu ne crois pas au miracle? J'ai été très excitée. La peinture est le thème central de mes méditations. J'ai peint depuis de nombreuses années déjà. J'ai étonné les professeurs de l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Ils disaient que j'étais très au-dessus de la moyenne, que je devrais poursuivre à Paris, et j'ai cru en mes dons extraordinaires. Je pensais, je suis encore une étrangère dans le pays de la peinture, mais je pourrais un jour y être chez moi. Lorsque j'ai gagné la bourse pour aller à l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, Diego, je pensais que j'avais en moi quelque chose de merveilleux, quelque chose que je devrais à tout prix protéger et sauvegarder. Mon dernier but serait Paris, l'Académie des Beaux-Arts. Je sais maintenant qu'on a besoin d'autre chose. M'en rendre compte, Diego, ce fut comme recevoir un coup de massue sur la tête. Et je ne peux le fleurer en pensée sans ressentir une douleur aiguë. Bien sûr, je promets. Je promets. Mais depuis combien de temps est-ce que je promets? Je suis encore une promesse. Parfois ta propre souffrance au moment de la création me console. Et je pense... Si c'était si dur pour lui, cela l'est davantage encore pour moi. C'est normal. Mais la consolation est de courte durée. Parce que je sais que tu es déjà un grand peintre. Et que tu en deviendras un extraordinaire. Alors que j'ai tout à fait conscience que je ne parviendrai pas à être beaucoup plus que ce que je suis. Il me faudrait une grande liberté d'esprit et beaucoup de tranquillité pour entreprendre l'œuvre maîtresse. Or, ton souvenir me tourmente sans cesse. En plus des problèmes que tu connais par cœur et que je n'énumère pas pour ne pas t'ennuyer, notre pauvreté, le froid, la solitude. Tu pourrais me dire, comme tu l'as déjà fait, que n'importe qui envierait ma solitude, que j'ai tout mon temps pour planifier et mener à bien une bonne œuvre. Mais ces jours-ci, je me suis agitée dans les lits, torturée par les souvenirs de la mort de mon fils, et non comme toi, enveloppée par les flammes du feu sacré. Je sais que toi, tu ne penses plus à Dieguito. Tu as sainement coupé. La branche repousse. Tu vis dans un autre monde, alors que le mien est celui de mon fils. Je le cherche. J'ai physiquement besoin de lui. S'il était vivant, il partagerait ce studio avec moi. Je devrais me lever, quel que soit mon état, m'occuper de lui, lui donner à manger, le changer, et le seul fait que quelqu'un puisse avoir besoin de moi me ferait du bien. Mais il est mort, à présent, et personne n'a besoin de moi. Tu m'as oublié dans ton Mexique que j'avais tant désiré connaître. L'Atlantique nous sépare. Ici, le ciel est toujours gris. Et là-bas, dans ton pays, il est toujours bleu. Et je me débat seule, sans même avoir la consolation d'avoir tracé, ces derniers jours, une ligne qui vaille la peine. Te quitte et t'embrasse tristement, Taquiela.
Thank you.
vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Avec nous dans le studio, Paola Cordova et Odile Loria qui nous font part de leurs deux coups de cœur. Odile vient de nous parler de son coup de cœur, donc de Elena Poniatowska, qui a écrit donc ce roman épistolaire autour de la première femme de Diego Rivera, Angelina Beloff. Et donc, toi, Paola, tu vas nous parler d'une poète, une poète, oui, qui s'appelle Sylvia Plath et pour lequel tu as eu un véritable coup de cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est cette écrivaine et poète ?
Cette écrivaine, donc, qui est née en 1932 dans le Massachusetts. C'est difficile à prononcer, hein. Aux États-Unis, donc, et qui a eu, pour moi, une œuvre, dans son écriture est très particulière. Elle a une vie, donc elle perd son père qu'elle adorait à 8 ans, qui était aussi d'origine polonaise, émigrée donc aux États-Unis. Et pour qui elle avait une admiration sans borne. Et quelques années plus tard, elle découvre que en fait, il a participé activement au nazisme. Et elle découvre par la même occasion qu'elle a des origines juives elle-même.
D'accord.
Que sa mère est donc juive. Et il y a une dichotomie qui va la torturer. Tout le long de sa vie, donc cette double appartenance, ces deux côtés opposés en elle-même, et qui feront donc, qui vont nourrir son écriture. Et elle essaye de se suicider une première fois à l'âge de 21 ans. Mm-hmm. Elle tombe dans une dépression profonde. Après, elle va faire la rencontre décisive d'un poète anglais, Ted Hughes, avec qui elle va se marier et avoir deux enfants. Et elle finira donc par se suicider à l'âge de 31 ans, en 1963. Et moi, ce que j'aime, c'est non seulement la déchirure présente dans son écriture, mais aussi la force et la capacité qu'elle a de passer de la lumière au côté plus sombre d'une chose, d'une image. Et elle a un rythme très particulier.
Et tu me disais tout à l'heure en antenne qu'elle était constamment tiraillée entre son rôle de mère, parce qu'elle voulait absolument être une bonne épouse, une bonne femme au foyer, et de développer en fait son art en tant qu'écrivain.
Oui. Oui, donc ça ouvre un sujet de discussion assez vaste. Je fais un parallèle avec Angelina Beloff, qui est aussi dans cette quête de d'être une femme, une mère, de vivre sa maternité pleinement, et puis de devenir une artiste.
Et puis aussi de vivre dans l'ombre d'auteurs ou de peintres qui sont aussi plus connus,
tout à fait.
Plus médiatisés.
Tout à fait, parce que c'est vrai que l'œuvre de Sylvia Plath, elle était plutôt... moi je vais lire quelques extraits d'un recueil de poèmes qui s'appelle Ariel, qui fait hommage au génie de la tempête de Shakespeare. Et qui était aussi le nom du cheval qu'elle montait les dernières années de sa vie, Sylvia Plath. Et donc ce recueil de poèmes est apparu, a été publié 2 ans après sa mort.
D'accord, donc elle n'a jamais été publiée de son vivant.
Non. Et aussi... mais en même temps, c'est important de dire que Ted Hughes, il n'empêchait pas... d'ailleurs, comme Diego Rivera, il a jamais empêché Angelina Beloff de devenir peintre ou d'être artiste, de s'essayer à la peinture, comme Ted Hughes, il poussait vraiment Sylvia Plath à écrire. Et il savait qu'elle avait un énorme talent. Mais bon, l'époque fait que c'était plus facile pour les hommes. Donc,
Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai hésité, j'ai dit poète et je me suis un petit peu arrêtée, forcée de m'arrêter, puisque à l'époque, on disait poétesse avec beaucoup de
mépris,
oui. Condescendance.
Oui. C'était le terme utilisé pour décrire les femmes qui écrivaient, hein, et qui étaient des poétesses et pas des poètes. Comme les peintresses n'étaient pas des peintres mais des peintresses. C'était très méprisant comme terme. Et donc il y a une citation dans l'avant-propos de cette publication des recueils de poèmes Ariel. Dont
tu peux nous lire un petit extrait.
Oui, c'est le poète américain Robert Lowell qui écrit « Ariel est un événement majeur de l'histoire de la littérature. Voici venue la fin des poétesses. » Un auteur de La Trempe de Sylvia Plath ne peut pas se taxer désormais de poétesse. Et voilà, enfin là je fais un micmac, hein, mais c'est vraiment un auteur majeur. Elle est devenue un auteur majeur qui sort du rang des poétesses.
Et donc là tu vas nous lire un extrait du poème qui s'appelle Le Pendu.
Oui,
on t'écoute.
Par la racine de mes cheveux, un dieu s'est emparé de moi. J'ai grésillé d'un dévolte bleu comme un prophète du désert. Comme une paupière de lézard, la nuit s'est fermée d'un bruit sec. Le monde n'est plus qu'un long jour blanc dans une cavité sans ombre. Un ennui rapace a cloué ma vie à cet arbre. S'il était moi, il ferait ce que moi j'ai fait.
On va écouter un petit extrait d'une musique que tu as choisie de Morton Feldman.
D'accord.
Et puis on reviendra peut-être plus sur la lecture juste après.
Qu'est-ce que ça veut dire? Les langues de l'enfer sont mornes, aussi mornes que la langue triple du morne et gros cerbère qui allaite à la porte. Incapable de lécher, incapable de laver. Le tendon fébrile, le péché. L'amadou gémit. Cette odeur indélébile d'une bougie mouchée. Amour, amour. De moi sortent rampées en volute, des fumées comme les écharpes d'Isadora. J'ai peur qu'une écharpe aille se prendre dans la roue. Des fumées si jaunes, si pleines de fiel, créent leur propre élément. Elles ne s'élèvent pas. Leur masse vengeresse fait le tour du globe, étouffe les vieillards et les humbles. Le faible, nouveau-né dans son berceau, l'orchidée atroce qui suspend son jardin suspendu dans l'air. Léopard du diable, les radiations l'ont brûlé à blanc et tué en moins d'une heure. Les corps adultères sont roulés dans une poussière noire, comme la cendre d'Hiroshima est dévorée. Le péché. Mon chéri, toute la nuit, j'ai tremblé. Les draps pèsent comme une étreinte obscène. 3 jours, 3 nuits, eau et citron, eau et poulet, l'homme donne la nausée. Je suis trop pure pour toi et pour qui que ce soit. Ton corps m'offense comme ce monde offense Dieu. Je suis un lampion, ma tête une lune de papier Japon, ma peau de l'or battu, infiniment raffinée, infiniment luxueux. Ma chaleur ne t'ébahit-elle pas? Et ma lumière, je suis à moi seul, un immense camélia qui rougeoie, qui vient et qui va de bouffée en bouffée. Je crois que je vais me lever. Je crois que je peux m'élever. Les grains de métal brûlant volent en moi. Amour, moi, je suis une vierge de pure acétylène. J'ai mon escorte de roses, de baisers, de chérubins et tout ce que ces choses roses peuvent bien signifier. Pas toi, ni lui, ni celui-ci, ni celui-là. Ces visages de moi se dissolvent. Vieux jupon de putain pour le paradis.
Donc c'était des extraits de poèmes de Sylvia Plath. Là on en est à l'étape coup de cœur, mais à vrai dire, est-ce que tu n'aurais pas envie, Paola, d'en faire un spectacle, de créer quelque chose à partir de ces textes-là?
Oui, sans doute. J'ai un copain, un comédien aussi, qui m'a dit je suis plongée dans l'œuvre de Plath et il faut absolument faire quelque chose, il faut absolument faire un spectacle. Donc je me dis que les poèmes, il faut pas les transformer, ils sont beaux comme tels qu'ils sont. Il faudrait faire quelque chose, sans doute.
Et j'ai oublié de préciser pour les auditeurs, t'es pas juste comédienne, t'es également danseuse.
Oui.
Donc allier quelque chose de l'ordre de danse.
Oui, je trouve que cette écriture est très corporelle, très très charnelle, très physique. Donc sans doute on peut faire un... Enfin moi ça me donne envie de faire un spectacle poème danse, pourquoi pas.
Donc des idées qui naissent pour l'instant, ça reste
en suspens.
En suspens, c'est
comme
pas encore, on peut même pas encore parler de projet, mais c'est déjà quelque chose qui peut mûrir et donc peut-être que je te réinviterai dans quelques mois
avec grand plaisir
pour parler d'un spectacle plus concret. J'avais commencé tout à l'heure, Odile, à parler du fait que tu étais à Lyon aussi pour autre chose que...
Oui, très concrètement, je cherchais un espace pour jouer.
Et pour jouer, justement,
on est invité pour l'association, par l'association, pardon, Belle Latinas, qui est une très belle démarche de Olga Barry et Januario Espinosa. Et ils ont un festival qui s'appelle Las Bellas Latinas. Donc, Espace Latinos, à un festival qui s'appelle Belle Latinas, qui c'est pour divulguer la littérature latino-américaine. Et c'est eux qui nous invitent pour jouer le monologue dans le cadre de son festival.
Donc le monologue, là, de Elena Poniatowska, dont tu nous as lu des extraits.
Oui, qui s'appellera « Qui est là ?»
Qui est là ? Puisque tu me disais donc c'est une auteure contemporaine qui fête cette année ses 80 ans.
Oui, Elena Poniatowska fêtera cette année ses 80 ans. Et donc, on voulait le rendre hommage à son écriture et à sa vie. Donc, et le festival rend hommage aussi à Elena Poniatowska.
Et donc, tu travailles actuellement avec Guillermo León.
Donc, ce serait Guillermo León, qu'on s'est retrouvé pendant le Festival Hecho en México, qui ferait la dramaturgie et la mise en scène.
Puisque du coup, il va adapter en fait le roman épistolaire pour le théâtre.
Donc, ce qu'on a lu, c'est vraiment la matière écrite de Poniatowska qu'il faut réécrire pour le plateau.
D'accord. L'adapter.
L'adapter.
Et donc là, la création, la résidence, vous allez démarrer ça quand ?
Nous allons créer la pièce, le monologue, en juillet-août au Mexique. Et nous sommes invités par le festival pour jouer en novembre.
Et le festival, c'est où ?
C'est à Lyon.
Ah,
et normalement, il y aura la présence d'Elena Poniatowska.
Ah, donc elle va venir du Mexique à Lyon, enfin elle va venir...
Elle est invitée.
Elle est invitée.
Donc, maintenant, il y a beaucoup de démarches à effectuer pour qu'elle puisse venir, mais elle est ravie de venir. Elle a dit oui, je viens. Et normalement, elle devrait être présente pour son hommage et pour la première du monologue. Voilà.
Tout à l'heure, en fait, on est passé un petit peu vite et on a oublié de passer une musique auquel tu tiens beaucoup, Paola, une musique de Billie Holiday.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'elle te tient tellement à cœur?
Parce que je fais un parallèle entre Sylvia Plath et Billie Holiday. Il y a des grandes femmes artistes et avec des déchirures, voilà, pas banales.
On va peut-être du coup profiter d'avoir encore quelques minutes avant l'arrivée de Combord pour en écouter quelques notes.
Merci. C'est parti.
Alors, je reprends l'antenne puisqu'il y a apparemment un problème technique. Ce sera peut-être l'occasion... Pour nous de continuer à parler de vos projets respectifs.
Ouais, je voulais juste préciser que c'est important de dire qu'Angelina Beloff, donc cette femme ruse, immigrante à Paris, part quelques années plus tard, le départ de Diego Rivera, au Mexique, et elle finit sa vie au Mexique.
Ah, c'est une précision qui
très importante.
Est importante pour la suite. Et ça y est, le problème technique est donc réglé. Et nous écoutons Billie Holiday, The Man I Love. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'm sure to meet him.
chronique paysagère. Aujourd'hui, la mise en abîme de la gamelle concerne la géopolitique intime. C'est un peu pompeux pour ce que c'est. Oui, c'est un peu pompeux pour ce que c'est. Chers auditeurs, chères auditrices, il serait bien, juste avant que je commence, que vous sortiez soit une map monde ou un dictionnaire où il y a des cartes du monde, quelque chose que vous auriez un atlas à disposition. Ça va être important au milieu du texte. Qui vient de sortir de l'ordinateur. Il est difficile de se regarder comme si l'on n'était pas soi. Je me demande si le bouddhiste y parvient. On peut écrire son autobiographie, esquisser un portrait de la bête, mais en le faisant, on connaît parfaitement le mensonge. Voici mon intérieur, de mémoire. Relis ta prose. De qui parles-tu? Était-ce ton projet que ce factum? Et quelles sont les conséquences sur le plan pratique? Es-tu changé? Dans ce cas, est-ce toi qui es exposé? Où te reconnais-tu? Dans quel extrait? Tu aurais mieux fait d'expédier un photomaton, qui au moins marque le temps, oui. Tu as négligé cet aspect dans ton œuvre, comme dans tes rêves d'ailleurs. Tu t'es moqué de l'actualité en traçant ton portrait, c'est regrettable. Comme si tu étais inoxydable. Y a-t-il une enveloppe constante autour du circonstanciel? En vrai, tu as voulu te poétiser, comme on pratique une ablation. Tu as oublié l'instant, qui pourtant décide de tout. L'être à l'instant survient, malgré ses anticipations. Tu peux t'appliquer, le résultat n'est pas acquis. Tu décides de ton attitude, crois-tu? Travailler ou pas, signer ou pas, accepter l'invitation ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Tu as bien pesé le pour, le contre, le zokazou. Et puis là, tu ne veux plus calculer, pourquoi? Tu étais si résolu à faire le singe, à te singer, que dans l'instant, tu as jeté l'accoutrement du rêveur, du distrait, du penseur, du bon à rien, du diplomate. Miracle! Une nouvelle légende s'écrit. Tu prépares un mensonge tout neuf, une mystification de plus quand l'heure sera venue de narrer tes exploits. J'ai flirté avec une telle. J'ai jeté le pavé dans la mare, j'ai claqué la porte, j'ai brisé un sort, rompu une amarre. En fait, vieux, quand t'es-tu engagé dans l'instant? Comment as-tu traité cette poésie du quotidien dont tu te réclames? J'entends que tu travestis des amours tièdes en passion, j'entends que tu t'attribues tous les droits et bon nombre de pouvoirs, j'entends par ta voix l'écho d'un monstre sacré. J'entends que ton dernier recours est de nous emmerder avec ton jeu d'acteur. Un peu comme cette représentation du globe, c'est là où il faut sortir les atlas, qu'on nous a imposé depuis le tableau noir de l'enfance. On a décidé, par pure géopolitique, de tracer la ligne de l'équateur de façon à ce que le nord occupe le double de la superficie du sud. Prenez les mensurations de l'Europe et comparez-les à l'Amérique latine. Je vous laisse le temps. Et maintenant, représentez-vous que dans les faits, la deuxième couvre le double de la première. L'Inde vaut trois fois la Scandinavie. Bah, revenez à votre map monde. Regardez. Elle est plus petite, non? Les États-Unis et le Canada. Allez-y, appliquez votre géométrie sur votre carte. Reportez-vous à présent sur le continent africain. Qui gagne en superficie? Regardez la carte. Grave erreur. Les premiers font à peine les deux tiers du second. Et ainsi de suite, on vous ment et vous vous mentez. Et ce n'est pas par négligence. Il y a de l'espace dérobé, de l'espace spolié, plus concrètement que sur le dessin, qui ne fait qu'en prendre acte, ainsi que les leçons d'histoire, d'économie et de philosophie. Les officielles cérémonies. Silence, on tourne. Donc, pour revenir à toi, le photomaton qui remet les pendules à l'heure, qui s'en prend aux aiguilles, s'apprête à torturer, à distordre. Le pansement se substitue au portrait, chirurgie esthétique. Qui supprime le temps songe à l'enfermement. Quelle heure est-il? Quel jour? Comment s'accrocher à quelque chose s'il n'y a pas d'échéance, s'il n'y a pas d'histoire? On nous vole le temps, la durée, aussi bien que l'espace. On nous les cache, on les diminue. Où on les agrandit, pratique immémoriale des tortionnaires. Rien ne se passe ni ne se déplace. Sépulture. On te montre à présent celui qui a cessé de compter, celui qu'on a défiguré. Le reconnais-tu ? C'était un camarade très actif. Maintenant, il est aux ordres, sous contrôle. Avec la santé, posséder son temps et son espace est vital à n'importe qui. Supprimer cela, c'est proprement briser la volonté. Écoute les réponses qu'il apporte maintenant aux questions toutes primaires de ses bourreaux. D'abord, elles ne sont pas des réponses, elles sont hurlées. Il ne peut pas faire autrement, sinon il réfléchira et ce sera un accroissement de torture. Tu ne dis rien. Tu es suffoqué tandis qu'il hurle. Tu voudrais que ça cesse. Mais on t'a montré la carte, la map monde, et on t'a confisqué ta montre. On t'a préparé à la souffrance continue et à la diminution de la surface habitable. Ton espoir est que cela sera inscrit quelque part. Tu te concentres sur cette médiocre perspective plus tard que tu ne peux situer. Pour le moment, ceux qui ont réduit à néant ton espace et ton temps gravent en toi leur chronologie et leur plan. Ainsi que leur langage que tu vas bientôt hurler comme ce démon. Selon l'examen objectif des phénomènes contemporains, nous arrivons à la conclusion que l'échec ou la réussite d'une activité concurrentielle n'est pas tributaire d'une quelconque capacité innée. Il faut prendre en compte une part considérable d'impondérable. Il faut que tu intègres que chaque argument n'est qu'une parodie de raisonnement. Tu seras noyé sous les métaphores et les expressions toutes faites, symptomatiques. On t'éloignera de l'effort mental par des fondus enchaînés et des courts-circuits automatiques. Ainsi te perdras-tu dans le labyrinthe des effets et des causes. Pense à Dada. Réponse à la guerre. Dada. Le mot devient image. L'image devient geste. Les modes d'expression se télescopent. Toutes les avant-gardes ont mis la fissure au premier plan. Le gouffre en fond de scène. Et maintenant allume ton poste. La locution présidentielle n'a pas été à la hauteur du succès attendu. Les Français s'expriment pour un travail valorisant. Tout est conçu pour annuler la représentation mentale correcte. Le langage est une icône sans début ni fin, sans localisation. Le temps et l'espace sont abolis. En d'autres termes, la pensée est exclue. Il reste le hurlement. Et où en sont nos braves tribuns ? Je pense que nos concitoyens ne toléreront pas ces atteintes réitérées aux valeurs républicaines. C'est intolérable. Je parle aux gens que j'aime, tandis que d'autres songent à l'argent. Curieux sentiment d'individus évadés de leur corps, d'être tout en zinc, ainsi qu'on surnommait notre vieux président Sadi Carnot, le sabreur d'anarchistes. Un projecteur ose une lueur sur le verre des lunettes ? L'illusion est complète. Ils ont deux disques bruns devant les yeux, où se déroule leur discours. Les pupilles ont vrillé quelque part dans les profondeurs d'un crâne insondable. Effet d'optique ? Délire de paranoïaque ? Leur phrasé donne toute l'apparence d'un disque rayé. Quelqu'un force sur le bras de lecture pour qu'il parvienne au terme des sillons une proposition de loi. Il y a bien une voix, mais n'est-ce pas une bravade du micro de province et des enceintes de la mairie ? Ce cerveau n'a pas l'air d'être au travail. Il ne choisit pas ses mots. Il répète, il annonce. Il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Il n'est pas là. Voilà le conformisme hors du temps et de l'espace.
Merci Combor pour cette chronique paysagère, cette mise en abîme avec notre thématique d'aujourd'hui. Merci Paola Cordova.
Merci Anaïs.
Merci Odile Lauria.
Merci. Merci.
Et puis si vous voulez réécouter l'émission, vous allez sur le site internet de la compagnie lesmonturesdutemps.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Un peu de bande continue.
Je pourrais pas te faire un bon jingle.